Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Je vous raconte l'histoire de John List, un Américain qui, en 1971, tue sa mère, sa femme et ses trois enfants avant de disparaître. Et vous serez frappé, j'en suis sûr, par les similitudes avec l'affaire du pont de Ligonnès en France. Sauf que John List, lui, a fini par être arrêté, 17 ans plus tard. J'ai écrit cette histoire avec Thomas Audouard, réalisation Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelat.
Je vous propose d'embarquer dans la machine à remonter le temps. Nous voilà à Westfield, dans l'état du New Jersey aux États-Unis, au mois de novembre 1971, face à une belle maison victorienne de Hillside Avenue, la villa de la famille List. Ah ouais, elle est belle, grande, élégante, 19 pièces, une sorte de manoir. Et c'est donc là qu'habitent les List. Je vous les présente. Le père d'abord, John, 46 ans, vice-président d'une grosse banque du coin. La mère, Hélène, elle ne travaille pas, elle s'occupe de ses enfants. Et puis les trois enfants, donc, Patricia, l'aînée, 16 ans, John, 15 ans, et Frédéric, le petit dernier, 13 ans. Voilà, vous avez toute la famille. Ah non, non, j'ai oublié la grand-mère, Alma, la mère de John, le père, 85 ans. Elle habite là, elle aussi. La maison est tellement grande qu'elle y a ses propres appartements. Voilà, maintenant vous connaissez toute la Smala. Vous n'aurez pas beaucoup de temps pour vous attacher à eux, car dans un instant, tout ce petit monde va disparaître. Le 10 novembre 1971, le directeur de l'école où sont scolarisés les enfants reçoit une lettre du père. Je vous informe que pour des raisons familiales, l'un de nos parents qui est malade en Caroline du Nord et auquel nous devons apporter du soutien, nos enfants seront absents de l'école pendant quelques semaines. La lettre ne mentionne aucune date de retour. Et de fait, à partir de ce moment-là, les voisins racontent qu'ils ne les ont jamais plus vus. Ni le père, ni la mère, ni la grand-mère, ni aucun des trois enfants. Pendant quelques jours, ils voient de la lumière allumée dans toutes les pièces de la villa sur les trois étages. Et puis au fil des jours, les lumières s'éteignent une par une, pièce par pièce, jusqu'à ce que la villa soit intégralement plongée dans le noir. Un voisin, justement, est intrigué par ça. Et il finit par appeler la police.
C'est très étrange. Les lumières dans les pièces se sont éteintes une par une. Ça a duré plusieurs jours. Et puis là, il n'y a plus de lumière du tout. Je pense que vous devriez venir voir.
Le 7 décembre, deux policiers se rendent sur place. Ils inspectent la villa de l'extérieur. Ils ne notent rien d'anormal. Et ils vont voir les voisins, les plus proches. Pour moi, ils sont partis en voyage, mais je ne sais pas s'ils ont emmené la grand-mère avec eux. J'ai un peu peur pour elle, quoi, parce que si elle est toute seule depuis tout ce temps... Du coup, les policiers retournent devant la villa. Et dans la pénombre du soir qui est en train de tomber, ils finissent par apercevoir une lueur entre le troisième et le deuxième étage. Ils s'approchent, et là ils s'aperçoivent qu'une fenêtre du rez-de-chaussée n'est pas bien fermée. On pourrait essayer de rentrer par là, qu'est-ce que t'en penses? Et hop, les voilà dans la cuisine, où surprise retentit de la musique classique, à tue-tête. T'as vu les taches sur les carreaux, là? C'est du sang, non? Les deux policiers continuent de progresser au rez-de-chaussée, toujours sur fond de musique classique, et ils arrivent devant la salle de bal, fermée par deux grands rideaux blancs. Ils les ouvrent, et dans le faisceau de leur lampe de poche, ils voient des formes humaines, quatre corps, allongés sur des sacs de couchage.
C'est la police de Westfield, hein? Vous pourriez vous lever?
Pas de réponse. Et pour cause. Ce sont des cadavres, en partie décomposés.
Et regarde,
Ils ont pris une balle dans la tête chacun. Sauf celui-là, le plus jeune, là. Lui, on dirait qu'il a pris plusieurs balles.
L'un des policiers appelle immédiatement le central.
On est sur Hillside Avenue, 431. On vient de tomber sur ce qui pourrait être un suicide collectif ou un massacre. Vous pouvez nous envoyer du renfort ?
Les quatre cadavres sont assez faciles à identifier. Il s'agit de la mère, Hélène List, et de ses trois enfants, Patricia, John et Frédéric. Mais où sont le père et la grand-mère ? La grand-mère, Alma, les policiers arrivés en renfort finissent par la trouver au troisième étage, morte elle aussi, une balle dans la tête. Mais le père ? Où est le père ? Le père n'est pas mort, et il a laissé une lettre. Les policiers la trouvent dans son bureau, bien en évidence. C'est une lettre manuscrite de 5 pages, dans laquelle John List, qui est très croyant, s'adresse à son pasteur, le révérend luthérien Revinkel. Elle commence ainsi. « Je sais que ce qui a été fait est mal, et que toutes les raisons que je pourrais donner ne le rendront pas bon. » Et il ajoute un peu plus loin, « J'étais loin de gagner de quoi nous faire vivre. Tout ce que j'ai essayé semblait aboutir à un échec. » Voilà donc l'explication. John List était ruiné, et c'est pour ça qu'il les a tous tués. Il écrit « Je suis sûr qu'ils sont allés au ciel maintenant. » Et la lettre se termine par un post-scriptum glaçant. « Mère est dans le corridor du grenier au troisième étage. Elle était trop lourde pour la bouger. » À partir de là, une chasse à l'homme est lancée dans tous les États-Unis. On cherche John List, qui est qualifié de mass murderer, un tueur de masse. Et dès le 8 décembre, lendemain de la découverte des 5 corps, l'affaire fait les gros titres de la presse. Et dans la petite ville de Westfield, on ne parle que de ça. Et les gens qui connaissent John List tombent de l'armoire. Surtout ceux qui le fréquentaient à la paroisse.
Je ne comprends pas. Enfin, c'était un homme très, très calme, très... très courtois. Je n'arrive pas à croire qu'il a fait ça.
2 jours après la découverte des corps, on retrouve la voiture de John List, une Chevy Impala, garée dans un parking de l'aéroport international Kennedy. Si on en croit la date du 9 novembre, qui figure sur le courrier, John List a 1 mois d'avance sur la police. Pour lui mettre la main dessus, il est donc fondamental de comprendre qui il est, de cerner sa personnalité. Alors voilà ce que les policiers apprennent sur lui. John Emil List est né à Bay City, dans le Michigan, en 1925, de parents germano-américains. C'est leur fils unique. Des gens assez stricts, raides, pas marrants, un père qui travaille beaucoup, et une mère un peu castratrice, tous les deux très croyants, luthériens, foi qu'ils ont transmise à leur fils. List obtient son diplôme d'études secondaires, et juste après, il est mobilisé et il va servir en Allemagne à la toute fin de la Deuxième Guerre mondiale. En 1946, il retrouve les bancs de l'université, et il obtient un diplôme en administration des affaires et déménage en Virginie. Et 5 ans plus tard, en 1951, il rencontre Hélène Taylor, 25 ans, veuve. 3 mois plus tard, il se marie à l'église luthérienne de Baltimore, dans le Maryland. Et dans la foulée, ils font 3 enfants, en rafale, 3 enfants en 4 ans. Bon, les gens disent que c'était un bon père, attentif. Pas un papa gâteau non plus, mais un bon père, présent pour ses enfants. Alors le travail maintenant. À partir de 1958, John List travaille comme comptable dans différents cabinets. Mais ce qui est très intéressant, c'est que nulle part, dans aucun des postes qui lui sont confiés, il ne gravit les échelons. Il reste un employé moyen. Il se contente de changer de poste régulièrement. Et à chaque fois, la famille suit. Et les List déménagent donc souvent. Mais pourquoi change-t-il de poste si souvent, si c'est pas pour prendre du galon ? Ça, c'est intéressant. Les policiers vont voir ses anciens employeurs.
John List? Ben, s'il est parti, c'est que je l'ai renvoyé.
Pour quelle raison l'avez-vous renvoyé? Des problèmes au travail?
Non.
Enfin, si. Je ne l'ai pas renvoyé pour une faute professionnelle. Hein. John travaillait plutôt bien, mais il avait des vrais problèmes de comportement en équipe. Hein. Il s'entendait pas avec les autres. Il pouvait plus le supporter, vous comprenez?
Ça dure comme ça pendant 7 ans, jusqu'en 1965, où là, List connaît une vraie promotion, sa première. Il est engagé comme vice-président de la National Bank du New Jersey. Enfin, un poste à responsabilité, un vrai tournant dans sa carrière. Et dans la foulée, les List achètent cette belle maison à Westfield, celle-là même où on a retrouvé les 5 cadavres. Renseignement pris d'ailleurs, l'achat de cette maison ne s'est pas fait sans mal. John a dû emprunter beaucoup d'argent à sa mère. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle vivait là. Elle avait payé une bonne partie de la villa. Mais l'explication du drame se situe sans doute juste après. Quand en 1966, John List se fait virer de son super poste de vice-président de la National Bank du New Jersey. Poste auquel il ne sera resté qu'un an, finalement. Il ne dit rien. Il ne dit rien à personne. Et surtout pas à sa femme, ni à sa mère. Il ne leur dit pas qu'il n'a plus de travail. Il ne leur dit pas qu'il a échoué une fois de plus. Et tous les matins, il enfile son costume de banquier et il va prendre son train à la gare de Westfield, en direction de New York, comme si de rien n'était, comme s'il avait encore du travail. Sauf qu'il descend quelques stations plus loin, et on ne sait pas comment il occupait son temps. Il a cherché du travail pendant ces 5 années, oui, et parfois même il en a trouvé. Mais il n'a jamais dépassé la période d'essai. Et après, il s'est fait virer, comme d'habitude. Maintenant que les policiers sont parvenus à reconstituer le parcours de John List pendant ces 5 années qui précèdent la tuerie, on comprend mieux le mécanisme qui mène au meurtre. Pendant 5 ans, il a dû à la fois cacher qu'il n'avait plus d'argent et maintenir le niveau de vie de sa famille. Et au bout de 5 ans, il s'est retrouvé coincé. Coincé par son mensonge. Il avait une issue possible. Le suicide. Sauf que chez les luthériens, c'est un péché mortel. Se suicider équivaut à aller tout droit en enfer. Il aurait pu aussi choisir la lâcheté, c'est-à-dire la fuite, abandonner sa mère, sa femme et ses enfants, les laisser se débrouiller. Mais il était trop orgueilleux, sans doute. La dernière option était celle de la pauvreté, faire appel à l'aide sociale. Il a dû y penser chaque fois qu'il regardait son compte en banque. Mais ça n'est pas comme ça qu'il a été éduqué. Chez les List, la pauvreté est considérée comme un péché qui l'a encore mené tout droit en enfer. Les policiers parviennent à établir que John List, met un an après son dernier licenciement, à choisir la seule solution qui lui paraît tolérable. Les tuer, tous, pour qu'ils ne vivent pas la chute. Et ce faisant, les envoyer au paradis et leur épargner l'enfer. Il l'écrit dans sa lettre. Je suis sûr qu'ils sont montés au ciel maintenant. Alors, où est-il? La dernière chose qu'il fait avant de disparaître est de retirer de l'argent. Pas une somme astronomique, hein, 2 000 $. Et pas sur son compte en banque, puisqu'il est ruiné. Sur le compte qu'il avait en commun avec sa maman. Combien de temps tient-on avec 2 000 $ au début des années 70 aux États-Unis? 2 mois. 3 mois maximum en serrant les fesses. Mais pas plus. Or, les mois passent. Et bientôt les années. 1972, 1973, 1974, 75. Et il ne donne aucun signe de vie. Enfin si, des tas de gens le voient partout, des milliers de lettres arrivent des 4 coins des États-Unis. Je l'ai vu à tel endroit, allez à tel endroit, je suis sûr qu'il y est. À chaque fois on vérifie, ça n'est pas lui.
Et les années passent encore. 76, 77, 78, 79, 80. Régulièrement, la presse met sa photo à la une. Ça n'a aucun effet. L'affaire John List est devenue ce qu'on appelle un cold case. C'est une affaire non résolue, sans doute pour l'éternité. Personne n'y croit plus. Au milieu des années 80, les policiers qui enquêtent sur sa disparition racontent que quand ils partent en vacances pour entretenir la flamme, ils envoient à leurs collègues rester au boulot des cartes postales anonymes. « Nous aimerions que vous soyez là pour coffrer John List. » Ça les fait marrer. La disparition de John List n'est plus vraiment une enquête. C'est devenu un mythe. C'est devenu une légende urbaine. Et ça dure comme ça, jusqu'à la fin des années 80, jusqu'à ce qu'une émission de télévision décide de s'intéresser au dossier John List. Une émission de la Fox, qui n'est pas encore l'empire qu'elle est devenue aujourd'hui, mais qui remporte un vrai succès. America Most Wanted, qui a d'ailleurs été adapté en France, sur TF1, sous le nom de Perdu de vue, de Jacques Pradel. Vous voyez le concept? Tenter de résoudre des énigmes, des affaires non résolues, en faisant appel aux téléspectateurs. L'émission est présentée par un certain John Walsh, qui est un animateur un peu particulier. Son propre fils a été assassiné et son assassin court toujours. Donc, John Walsh a une motivation très intime, plus intime que journalistique. C'est la police qui donne à Walsh le dossier John List. Au début, il n'est pas très emballé. C'est une vieille histoire qu'on ne pourra illustrer que par des photos jaunies des années 70. Il a peur que ça fasse chuter son audience. Mais bon, il se laisse convaincre.
Tonight, on America's Most Wanted.
Now tonight's first case, the oldest we've ever pursued on America's Most Wanted.
L'émission est programmée en avril 1989. Pour l'occasion, les producteurs ont fait réaliser par un sculpteur, à partir de photos d'époque, un buste en plâtre de John List, mais vieilli, avec les traits qu'il pourrait avoir 17 ans plus tard. Et le buste est montré à la caméra. Et Walsh livre quelques informations sur le bonhomme.
Alors, John List, à l'époque, avait une voix douce, que sans doute il a conservée. Il portait systématiquement une chemise-cravate et on peut imaginer qu'il ait continué à s'habiller comme ça. Et j'ajoute qu'il portait des lunettes.
Pendant l'émission, plus de 200 appels arrivent de tous les États-Unis. Et un appel retient l'attention. Un appel en provenance de Denver, dans le Colorado.
Ah, je suis sûr que c'est lui. Ah oui, oui. C'était mon voisin jusqu'à il y a peu. Tout correspond, hein. J'avais remarqué qu'il montait beaucoup. Il se fait appeler Bob maintenant. Enfin, Robert Clark. Il a quitté la région il n'y a pas longtemps et je crois qu'il est parti vivre en Virginie avec sa femme.
Le 1er juin 1987, le FBI débarque chez ce Robert Clark à Richmond. Bonjour madame. FBI, est-ce que monsieur Clark est là?
Ah non monsieur, il est à son travail.
Madame, nous avons des raisons de penser que votre mari pourrait être John List, recherché depuis 17 ans par le FBI.
Bob? Mais non, vous trompez complètement. Écoutez, je vais vous donner l'adresse de l'agence de comptabilité où il travaille. Vous verrez que ça n'est pas lui du tout, que vous faites erreur.
Deux agents du FBI se rendent sur place. Robert Clark est en plein travail.
Mais non, je vous assure, je ne suis pas John List. Écoutez, venez avec nous, nous allons vérifier ça. Ça ne prendra pas trop de temps.
Je vous en prie, monsieur Clark. Asseyez-vous. Nous allons prendre vos empreintes digitales. Tendez-moi la main droite, s'il vous plaît, merci. Voilà. Maintenant la main à gauche. Voilà. Et on compare avec les empreintes relevées à l'époque sur la scène de crime. Et c'est lui. C'est John List. On l'a retrouvé. Il nie, hein.
Enfin, je vous assure que ça n'est pas moi. Je ne sais pas de quoi vous me parlez.
Mais il ne peut pas y avoir d'erreur.
John, on sait que c'est toi.
Il sourit, mais il ne dit rien de plus. Le 29 juin, John Lees, qui a maintenant 63 ans, est extradé vers le New Jersey et inculpé de meurtre au premier degré. Toutes les télés du pays l'attendent sur le tarmac de l'aéroport de Newark. Et on mandate un psychiatre, le docteur Stephen Sirming, pour juger de son état mental. Et c'est à lui qu'il raconte les choses pour la première fois.
J'ai pensé que ma famille irait au ciel. Et que j'aurais peut-être la chance moi aussi d'aller au ciel après la mort.
Et c'est aussi au psychiatre Sirming que John Lees raconte comment ça s'est passé 17 ans plus tôt.
Le matin, les enfants ont pris leur petit déjeuner. J'ai fait en sorte d'être le plus naturel possible, jusqu'à ce qu'ils partent à l'école. J'avais un vieux pistolet. Il avait appartenu à mon père. La première que j'ai tuée, c'est ma femme, Hélène, dans la cuisine. Et ensuite, je suis monté tuer ma mère.
Il raconte qu'ensuite, il a écrit les lettres pour l'école des enfants et qu'il est allé retirer les $2000 à la banque.
En rentrant, je me souviens. J'ai déplacé le corps d'Hélène et j'ai nettoyé le sang dans la cuisine. Et puis après, je me suis fait un sandwich et j'ai lu le journal comme je le fais tous les jours. Et puis j'ai attendu le retour des enfants.
Il dit que Patty, Patricia, est rentrée la première. Il l'a tuée dans la cuisine, d'une balle dans la tête. Que Frédéric est arrivé ensuite. Et lui aussi, il l'a tuée dans la cuisine.
Et après, je suis allé chercher John, à son école. Je me souviens, ce jour-là, il avait un match de foot. J'ai assisté à la rencontre. J'étais heureux de le voir s'amuser. Et puis je l'ai ramené à la maison et je l'ai tué à son tour. De tous les meurtres, je dois dire que ça a été le plus difficile. Parce que quand je lui ai tiré une première balle, il a été pris d'une sorte de spasme. Il a fallu que je m'y reprenne plusieurs fois.
L'autopsie a effectivement montré que le petit John avait reçu 10 balles. Il dit qu'après, il s'est fait un bon repas, qu'il se sentait soulagé, et qu'il est allé se coucher, et qu'il a dormi parfaitement bien.
Moi, j'ai beaucoup mieux dormi cette nuit-là que les nuits précédentes, hein, c'est sûr.
Le lendemain matin, il a baissé la température dans la maison à 10 degrés pour éviter que les corps ne se décomposent. Il a allumé toutes les lumières et mis la radio sur sa station de musique classique préférée.
Je me disais que si quelqu'un approchait de la maison, il penserait qu'il y avait quelqu'un à l'intérieur.
Et après, il a écrit sa lettre au pasteur. Et puis il a pris un avion pour Denver dans le Colorado, à 2000 kilomètres de là.
Quand je suis arrivé à Denver, j'ai trouvé un poste de cuisinier dans un petit restaurant. Et là, j'ai décidé de me faire appeler Robert Clark. À partir de ce moment-là, comment vous dire, je me suis senti plus libre, oui. J'étais délivré du fardeau de ma famille.
Verdict du psychiatre, John List souffre d'un trouble excessif compulsif de la personnalité. Mais ce n'est pas une maladie mentale. Et donc il pourra être jugé. Le procès de John List s'ouvre le 2 avril 1990 devant la Cour supérieure du New Jersey. Il plaide coupable. Donc il n'y a pas de débat là-dessus. Tout l'enjeu du procès est de savoir s'il a agi délibérément ou s'il a droit à des circonstances atténuantes. Toute la stratégie de son avocate, Elijah Miller, est basée là-dessus.
Le psychiatre qui a examiné M. List a établi qu'il souffrait d'un trouble obsessionnel compulsif. C'est une circonstance atténuante. Et je demande à ce que la charge soit requalifiée en meurtre au deuxième degré. Il ne pouvait pas s'éloigner de sa ligne de conduite. Il était prisonnier de sa folle logique.
Mais à la barre, le psychiatre Stephen Sirming vient mettre un gros bémol à tout ça.
Je crois que vous aviez le choix, monsieur List. Je crois que vous étiez mentalement capable de faire un autre choix.
Le procès dure 2 semaines. Le jury délibère pendant 9 heures. Et à l'issue, il reconnaît John List coupable de 5 meurtres au premier degré. 3 semaines plus tard a lieu l'audience de détermination de la peine, c'est comme ça que ça se passe là-bas. C'est la première fois que John List s'exprime publiquement au sujet de son crime.
Je suis vraiment désolé de la tragédie qui s'est produite en 1971. Mais je pense qu'en raison de mon état mental de l'époque, je n'étais pas responsable de ce qui s'est passé.
Un point important. Les meurtres ont été commis en 1971, c'est-à-dire avant que le New Jersey ne rétablisse la peine de mort. Donc il ne peut pas être condamné à mort. Il est donc condamné 5 fois à la prison à perpétuité, 1 fois par meurtre. À l'annonce du verdict, la salle applaudit. John List fait 3 fois appel. Son avocat présente des expertises psychiatriques qui démontrent qu'il souffre d'un stress post-traumatique lié à son service militaire durant la Deuxième Guerre mondiale en Allemagne. Mais toutes ses requêtes sont rejetées par le juge. Des années plus tard, à l'âge de 77 ans, John List donne une interview à la télévision dans l'émission American Justice.
Je pense que j'irai au ciel. Je ne sais pas quelle sera ma situation au ciel. Ils se souviendront certainement de ce que je leur ai fait. Mais au ciel, nous pardonnerons l'un l'autre pour tout le mal que nous nous sommes fait.
John List est mort le 21 mars 2008 au centre médical du pénitencier de Trenton, dans le New Jersey. Et je n'ai aucune idée de l'accueil qu'il a reçu là-haut.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.